autour de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs et auditrices, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous demander pourquoi tous les êtres vivants sont si sensibles ou touchés. Et comment faire quand on en est privé aujourd'hui, à l'heure du Covid-19 et de l'obligation de distanciation sociale? Comment nous retoucher, nous laisser toucher par les uns, par les autres, par tous les autres? C'est-à-dire, bien sûr, nos frères et sœurs humains, mais aussi tous les autres animaux, et plus inattendu encore, par les plantes, les arbres et les végétaux, qui eux aussi sont sensibles au vent et à tout ce qu'ils perçoivent dans l'air et qui les touche. C'est ce que nous allons découvrir avec nos invités. La professeure en biologie végétale Catherine Laine, qui après s'être mise dans la peau d'une plante, mène ses recherches sur la sensibilité des arbres. Et l'écologue Jacques Tassin, qui vient de publier « Pour une écologie du sensible » aux éditions Odile Jacob, ainsi qu'une tribune parue dans Libération, « Le crépuscule du toucher », qui a touché justement les internautes comme Karine et sa fille Anita, qui l'ont mise en onde sur les réseaux sociaux. Bienvenue pour en écouter un extrait autour de la question « Pourquoi et comment nous retoucher et nous reconnecter avec ce qui nous touche ?»
Nous sommes foncièrement des êtres du toucher.
Nous ne nous sentons tout à fait bien que lorsque notre peau entre en contact intime avec l'altérité vivante.
Il nous faudra donc la sérénité retrouvée et pour guérir tout à fait de cette épidémie, nous ressaisir du monde à pleine poignée, au ras des réalités tactiles, au plein contact de l'autre. Nous devrons non seulement résorber les distanciations sociales, aujourd'hui indispensables, mais aussi, pour retrouver nos repères, nous réorienter vers ce qui nous touche.
C'est la conclusion de votre tribune « Le crépuscule du toucher » publiée le 9 avril dernier dans le quotidien Libération, Jacques Tassin. Bonjour Jacques Tassin.
Bonjour.
Merci d'être en direct par téléphone avec nous depuis Montpellier, où vous êtes confiné. Vous êtes chercheur en écologie végétale au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Auteur Jacques Tassin d'ouvrages inspirés et inspirants, on peut citer « À quoi pensent les plantes ?», dans lequel vous nous faisiez partager votre regard scientifique sur cette autre manière d'habiter le monde, propre au règne végétal. Et vous venez tout juste de publier, Jacques Tassin, aux éditions Odile Jacob, « Pour une écologie du sensible », un ouvrage, presque une sorte de manifeste philosophique qui résonne particulièrement en ces temps bouleversés par la pandémie. Il nous faut repenser notre manière d'être au monde, nos manières d'habiter la terre, d'être vivant, c'est-à-dire au fond d'être sensible, chacun à notre manière, Jacques Tassin.
Oui, ce confinement nous ramène à la douleur d'être isolé de toute possibilité sensible du toucher, qui est quand même notre sens le plus profond, le premier. Quand le bébé vient au monde, il le découvre à la faveur du toucher et il ne peut découvrir l'autre, c'est-à-dire petit à petit découvrir que sa maman n'est pas lui-même, que par le toucher. Et c'est vrai que le confinement nous isole, il nous isole de l'altérité. C'est cette forte contradiction, je dirais, de ce confinement. Enfin, je ne mets pas en cause le confinement, mais de nous isoler pour que nous puissions vivre. Alors qu'en nous isolant, nous ne pouvons pas vivre. Et le toucher lui-même, nous en avons tellement besoin que si une personne est privée de la vue ou de l'ouïe, elle peut continuer à survivre. Mais si elle est privée de cette capacité de toucher le monde, là, ça se passe très mal.
Alors, ça se passe très mal pour les humains que nous sommes, pour les animaux, mais ça se passe mal aussi pour les plantes, parce que ce qu'on découvre aussi, c'est que les plantes ont une sensibilité. On ne parle pas de sensiblerie, mais la sensibilité, elle est aussi au cœur de vos recherches actuelles. Catherine Laine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous également par téléphone depuis Clermont-Ferrand, où vous êtes donc, Catherine, professeure en biologie végétale à l'Université Blaise Pascal de Clermont, auteur d'un ouvrage très inspirant, lui aussi, « Dans la peau d'une plante », qui était paru aux éditions Belin. Vous menez actuellement vos recherches, Catherine, sur la sensibilité des arbres, donc leur capacité à répondre aux stimulations extérieures, leur proprioception, leur capacité aux arbres à pousser droit notamment. Les chercheurs comme vous sont donc d'accord sur ce terme de sensibilité, hein, plus que d'intelligence, vous parlez de sensibilité des arbres et des végétaux ?
Alors oui, bien sûr, la sensibilité, c'est un terme qui est parfaitement admis maintenant en biologie et qui concerne finalement tout le vivant. Là, on va parler des plantes, mais on va parler des hommes, mais on pourrait parler des bactéries ou de n'importe quel animal. Toute cellule vivante est sensible, c'est-à-dire est capable de percevoir des variations de facteurs de son milieu, de variations de facteurs extérieurs, et de percevoir ces stimuli et d'y répondre de manière adaptée. Ça, c'est la sensibilité. Et cette sensibilité, elle concerne un être, un organisme, mais elle concerne aussi toute cellule. À l'échelle cellulaire, ça marche.
Ah, du plus petit au plus grand, ça fonctionne. Et qu'est-ce que c'est que la sensibilité d'un arbre, Catherine ?
Voilà, alors... La sensibilité d'un arbre, eh bien, on pourrait dire aussi plus largement la sensibilité d'une plante, hein, parce qu'un arbre, ce n'est jamais qu'une plante particulière, une plante terrestre. La sensibilité des plantes, elle est extrêmement développée. Extrêmement développée parce que, en tout cas, on a pu démontrer et trouver dans ce monde végétal des centaines de capteurs différents qui permettent à la plante d'analyser son milieu extérieur, son environnement en permanence. Alors des capteurs de lumière, des capteurs de pression, des capteurs de température, etc. Donc la sensibilité dans une plante, elle est extrêmement développée, peut-être encore plus d'ailleurs que chez un homme. Et l'explication qui peut être avancée, l'interprétation, c'est que la plante est un être fixé, qui vit fixé au sol, qui ne se déplace pas, du moins pas de manière immédiate, et qui ne peut donc fuir son milieu. Elle est donc contrainte d'affronter ce milieu en permanence. Et donc pour cela, eh bien, elle a des yeux partout, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'elle doit analyser en permanence son milieu.
Et j'ai envie de revenir vers vous, Jacques Tassin, parce que vous êtes écologue, hein, vous travaillez évidemment aussi sur la sensibilité des arbres et des plantes, vous développez une écologie du sensible, mais on se dit que les plantes, finalement, elles sont tout le temps confinées. Enfin là, j'exagère un peu, hein, je rapporte à notre expérience du moment, mais finalement, les plantes, elles sont confinées, collées, et il faut qu'elles aient des récepteurs pour savoir ce qui se passe. C'est une forme de toucher dont elles ont besoin aussi, comme les autres êtres vivants qui sont moins, qui d'ordinaire sont moins confinés ou statiques. Jacques Tassin.
Alors, pas seulement le toucher, puisque comme vient de le dire Catherine Lane, il y a plusieurs formes de sensibilité se manifestent et qui lui permettent d'ailleurs, là je reviens vraiment à l'étymologie première du terme sensible, lui permettent d'aller de l'avant, puisque c'est un mot qui vient d'une racine indo-européenne, saint, qui signifie précisément aller de l'avant. Donc, le sens a du sens. Mais je dis pas ça sous forme de jeu de mots. Je dis ça justement en révélant l'intérêt du caractère polysémique de tout ce qui tourne autour de la terminologie du sensible. Et donc, la plante est sensible de toutes ses cellules. C'est une différence fondamentale avec le règne animal. Et elle est capable, alors, comment dire, sous des formes évidemment que la science ne permet pas d'investir, de choisir la bonne direction, si je puis dire. Et la science ne peut pas investir cela parce qu'elle découpe. Elle ne peut pas faire autrement. Et découpant, elle va dans le sens d'un saucissonnage excessif que d'ailleurs même le père de l'expérimentation, qui était Claude Bernard, lui-même avait pressenti. Il se disait, bon, on ne peut pas faire autrement, mais est-ce qu'on ne perd pas de vue l'ensemble de l'organisme qui, lui, fonctionne de cette manière-là, sans découper? Il n'y a pas, nécessairement en lui, évidemment, il n'y a pas conscience de différents éléments, de différents processus. Tout ça, c'est notre vision de l'esprit, c'est notre forme d'investigation scientifique qui amène à dissocier ce qui, en réalité, n'est pas dissociable. Et ce qui nous amène parfois à parler d'intelligence, parce qu'on dit que la plante doit résoudre des problèmes, parce que c'est très compliqué. Mais ça, encore une fois, poser cette question, c'est y aller de notre propre condition d'être humain.
Voilà pourquoi vous préférez tous les deux de ce terme de sensible ou de sensibilité, parce qu'au fond la plante c'est global, c'est une perception globale, c'est ça de ce qui se passe autour, et il n'y a pas une décision, mais c'est cette perception globale qui l'oblige, comme vous le disiez, à aller de l'avant et donc à être sensible.
Oui, oui, alors, tout à fait. C'est... Alors, pardon, je croyais que Catherine Lane voulait répondre.
Oui, oui, Catherine.
Oui, enfin, Jacques aussi peut prendre la parole, bien sûr. Non, ce que je voulais dire, c'est que on est toujours... la définition même de l'intelligence, elle est compliquée. Elle ne sera pas la même si vous interrogez un psychiatre, un neurologue, un écologue, etc. Donc, ou un spécialiste de l'intelligence artificielle, par exemple. Donc, c'est compliqué de dire qu'une plante est intelligente alors qu'on ne sait pas bien de quoi on parle. Alors que la sensibilité en biologie, elle est bien établie, bien étudiée. Enfin, on sait à peu près de quoi on parle. Je rejoins complètement Jacques Tassin quand il dit qu'on saucissonne. Et ça, c'est vrai que c'est le problème de nos études en laboratoire, que pour comprendre un phénomène, on est obligé de s'attacher à un seul facteur et donc de tout découper, bien sûr. Il y a quand même des recherches qui vise à réintégrer et à faire ce qu'on appelle de la biologie intégrative, c'est-à-dire à essayer de remonter à l'organisme complet qui est un arbre. Mais donc voilà, l'intelligence pour moi, ça me gêne toujours parce que j'aimerais bien qu'on me dise ce que c'est.
Alors restons, parce qu'on ne va sûrement pas vous dire ce que c'est que l'intelligence, hein. J'en serais pas capable, Catherine Lane et Jacques Tassin non plus, je ne pense pas. Mais on va donc plutôt parler de sensibilité et nous laisser nous sensibiliser, nous retoucher autrement. Vous avez eu envie, Jacques Tassin, d'écouter résonner la forêt, mais sous les doigts d'un guitariste virtuose, Pierre Bensoussan, qu'on écoute tout de suite sur RFI dans ce morceau « Sylva ». Sylvain, on s'y croirait presque dans la forêt du guitariste Pierre Bensoussan qui nous traverse les oreilles sur RFI. Pourquoi ce très joli choix musical, Jacques Tassin ?
Parce que j'entends une ambiance forestière dans ce... Alors évidemment, il y a beaucoup de subjectifs, nécessairement, quand on écoute de la musique. Mais cette ambiance forestière me ramène à ce que l'on perçoit de toutes ces facultés sensibles lorsqu'on s'y promène. Et qu'on perçoit d'autant mieux que l'on met la raison sur off, je dirais quoi.
Et oui, c'est ça, qu'on reste dans notre sensibilité.
Voilà, alors que la sensibilité, elle nous met en inhérence. Et encore une fois, si on en revient aux plantes, les plantes, elles, ne pouvant pas fuir, elles affrontent le monde. Elles ne s'y soustraient pas. Et nous, par la raison, on a plutôt tendance à se mettre à distance, voilà, pour ne pas parler de distanciation, que la sensibilité ne fait que, comment dire, que contrarier, je dirais, enfin, dans le sens très positif du terme, dans la mesure où la sensibilité nous met en présence du monde. Ce que font les plantes, qui sont un modèle pour cela, dans la mesure où elles sont sans doute plus au monde que nous ne le sommes nous-mêmes, qui avons tendance à en faire une abstraction, à le théoriser, à le transmuer dans un monde d'idées. Et au bout du compte, nous sommes un peu perdants finalement avec notre pensée. Une pensée qui souvent étouffe nos sens.
Autour de la question, justement, pour ne pas étouffer nos sens, pour nous retoucher, hein, et pas rester dans notre tête en ces temps de Covid-19 et en ces temps, évidemment, de distanciation sociale obligatoire, comment nous recontacter avec ce qui nous touche, donc, et en premier lieu avec cette nature, ces sons de forêt qu'on a entendus à l'heure où parcs et jardins publics sont encore fermés, hein, dans nos villes françaises qui sont toujours confinées pour le moment. Piste d'interrogation, en tout cas ouverte dans une pétition qui a été signée par plus de 80 000 personnes pour un accès responsable à la nature. Les signataires, dont des guides de montagne, mais aussi le célèbre psychiatre Christophe André, chantre de la pleine conscience, se disent absolument conscients justement de la gravité de la pandémie, mais ont demandé à nos gouvernants d'autoriser les promenades et les randonnées dans la nature. Je vous propose d'écouter Christophe André, que j'ai joint par téléphone. Il est actuellement en Bretagne, du côté de Saint-Malo, où il est confiné. On l'écoute.
Alors, on en a besoin, absolu. C'est d'ailleurs une inquiétude hein, par rapport à cette période vers laquelle nous allons, dans laquelle plus de la moitié des humains désormais habitent dans des grandes villes, des mégalopoles, et donc passent plus de temps devant les écrans ou le bitume que devant la nature. Alors qu'on sait depuis, en gros, les premières études sur les bénéfices de la nature, c'est les années 80. Vous savez, ce sont ces études où on montrait que les patients, après une opération chirurgicale, qui avait une chambre avec vue sur le parc ou la verdure, cicatrisait plus vite, sortait plus rapidement des services de convalescence que ceux qui avaient vu sur le parking. Et à partir de là, on a fait des tas de travaux et on a montré, on a confirmé que le contact régulier et prolongé, si possible, avec la nature était bon pour la santé. C'est-à-dire que ça ne nous fait pas seulement plaisir, ça ne fait pas seulement du bien à nos émotions, mais ça fait du bien aussi à notre cerveau et à notre corps tout entier. C'est bon pour l'immunité, pour baisser les stigmates biologiques du stress, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai soutenu de toutes mes forces cette pétition. Alors, évidemment, hein, nos pauvres décideurs politiques, là, ils sont submergés de pétitions de tout genre. On les plaint un peu, d'ailleurs. Moi, vraiment, j'aimerais pas être à leur place. Mais quand même, là, puisqu'il y a un enjeu de santé, la logique, elle est là, quoi. Il y a un enjeu de santé avec cette histoire de virus. Il faut s'en protéger, mais il faut aussi renforcer notre santé, notre immunité, notre bien-être émotionnel qui pèse sur la santé. Et donc, ça nous a semblé absurde d'interdire l'accès aux espaces naturels, d'où cette pétition.
Et vous parlez de cicatrisation, hein. Au début, c'est comme ça qu'on s'en est rendu compte, Christophe André. Donc c'est vraiment une action, comme vous le disiez, non seulement psychique, physique, physiologique.
Oui, ce qu'on appelait autrefois psychosomatique, c'est-à-dire une action qui intègre ces liens étroits entre notre cerveau, nos émotions et notre corps et notre biologie. Donc, comme tout le monde le sait, ces liens sont étroits. Ça fait longtemps qu'on sait aussi que dès que nous sommes stressés, nous sommes plus fragiles d'un point de vue immunitaire. Et dès que nous sommes heureux, dès que nous sommes en lien avec les autres, dès que les choses vont bien dans notre vie, ça nous renforce au point de vue de l'immunité. On attrape moins de maladies infectieuses, notamment, on se défend mieux contre tout ce qui est déséquilibre biologique. Et donc, ce qui est nouveau dans ces histoires de rapport à la nature. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a tendance, même pour frapper un peu les esprits, à parler de la vitamine V. Vitamine V comme vert. Vous savez, il y a la vitamine C, la vitamine B, la vitamine D, etc. Mais on considère qu'il y a pratiquement aussi une vitamine V. Et c'est comme toutes les vitamines d'ailleurs. Si on n'en a pas pendant quelques jours, voire quelques semaines, on n'en meurt pas. Hein. Si vous êtes privé de vitamine C, de vitamine D dans votre alimentation, bon, ça, vous allez tenir quelques temps, mais au bout d'un moment, vous allez avoir des maladies de carence. Et la vitamine V, autrement dit le contact avec la nature, c'est la même chose. C'est-à-dire on peut s'en passer quelques jours, mais au-delà d'une durée trop longue, c'est pas bon. Pas bon pour notre santé. Et le confinement, là, les gens qui sont confinés dans des HLM, dans des logements où il n'y a que du béton, c'est vital pour eux de pouvoir sortir, ne serait-ce que dans un petit square, ne serait-ce que dans un petit parc, un espace vert urbain. Ça fait du bien de voir de l'herbe, de voir des arbres, de voir le ciel tout autour de soi. Et donc, c'est aussi un facteur d'égalité sociale. Car les études dont on dispose montrent que le fait pour des personnes socialement défavorisées d'avoir malgré tout accès à des espaces verts, à des espaces naturels, est un réducteur en matière d'inégalité de santé. Ça améliore leur santé et ça les rapproche un petit peu de personnes un peu plus chanceuses qui habitent au vert.
Qui veut réagir à ces propos du psychiatre Christophe André, Jacques Tassin?
Je peux effectivement peut-être ajouter que non seulement le fait de s'inscrire dans le monde vivant est bon pour notre santé, mais nous en avons besoin de manière très intime pour notre plénitude. Moi je citerai volontiers le philosophe David Abraham, qui dit que nous ne pouvons atteindre notre plénitude existentielle qu'en convivialité avec ce qui n'est pas nous-mêmes. Enfermés sur nous-mêmes, nous sommes condamnés à mourir. Et c'est vrai que le confinement est d'autant plus douloureux pour les personnes qui, parmi nous, ont été obligées d'être vraiment enfermées dans un petit studio, etc. Enfin, ça, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Et l'antidote, effectivement, c'est de s'ouvrir à l'altérité, à l'autre, au monde avec lequel nous sommes de toute façon naturellement en inhérence.
En inhérence. Expliquez-nous ce mot, inhérence, Jacques Tassin.
En inhérence, mais nous respirons l'air. Nous mangeons ce qu'il y a autour de nous. Nous définissons aussi le monde extérieur parce que c'est nous qui fabriquons les couleurs, c'est nous qui fabriquons les odeurs, d'une certaine manière. Je ne suis pas en train de faire de la poésie non plus en disant cela, mais le monde se révèle par notre propre sensibilité. Le monde, s'il n'y avait aucun être sensible qui observait le monde n'existerait pas. Et c'est ça, cette inhérence. C'est cette inhérence qui est permise par les capacités sensibles qui sont propres à tout être vivant, pas seulement aux hommes, pas seulement aux plantes, comme Catherine Laine le disait, également aux bactéries, voilà, toutes les formes vivantes.
Et Catherine Laine, justement, j'ai envie de vous faire réagir à la fois au propos de Christophe André, à ce que vient de dire Jacques Tassin, donc à ce rapport intime entre être sensible, quel qu'il soit sur cette terre, puisque vous travaillez auprès des arbres, auprès des plantes et auprès de cette sensibilité-là.
Oui, alors, réagir peut-être juste avant de reparler de la sensibilité sur ce que disait Christophe André, je suis complètement d'accord avec ce besoin de nature et le fait que l'homme, en général, de plus en plus en est coupé. Mm-hmm. Et il y a quelque chose pour lequel je milite, moi, beaucoup, c'est justement les formes d'enseignement de cette nature. C'est-à-dire que moi, je pense qu'à nos enfants, dans nos pays occidentaux, mais même ailleurs, on n'enseigne pas suffisamment le monde végétal. Mm-hmm. Il est complètement exclu des programmes, ou pratiquement exclu. Mm-hmm. Et on a développé depuis quelques dizaines d'années ce qu'on appelle une cécité botanique, c'est-à-dire que la plupart des gens, quand vous interrogez une personne vous présentez une photo de, je sais pas moi, d'un petit chat au milieu d'un pré avec des arbres au fond, eh bien la personne va décrire la photo en disant il y a un chat qui est sûrement en train d'attendre la souris, mais il ne verra pas
comme
les plantes.
Comme si on mettait un cache sur les plantes, comme si on n'y faisait pas attention du tout.
Exactement, c'est, on ne voit plus les plantes parce qu'elles font partie du décor et que finalement on ne les reconnaît pas comme étant des êtres vivants, et a fortiori des êtres vivants sensibles. Donc la première chose à faire pour moi, c'est déjà d'enseigner que les plantes existent, qu'elles sont vivantes et qu'elles sont vivantes.
Et c'est voilà. En même temps, on a l'impression que, vous avez raison dans ce que vous dites, et en même temps, Catherine, on a l'impression qu'il y a eu beaucoup d'ouvrages qui sont sortis sur ce mot que vous n'aimez pas, l'intelligence des plantes. Enfin, c'est pour nous resensibiliser à ça, mais sans non plus partir dans une extrême inverse que les arbres nous parlent.
C'est tout à fait vrai. Et tous ces ouvrages que vous citez, y en a certains, effectivement, qui, pour moi, scientifiques, me semblent un peu trop éloignés des faits scientifiques, mais ils ont tous un mérite énorme, c'est celui de parler du monde des plantes. Et donc ça, c'est formidable. Si on peut reconnecter les gens au monde végétal, c'est déjà formidable. Et on peut le faire aussi de manière très scientifique et en l'enseignant à l'école et dès la maternelle. Donc c'est vraiment des choses qui sont à notre portée.
Et qu'il faudrait peut-être profiter de tout ce qui nous arrive pour essayer de remettre ça sur le tapis et puis de revoir cette, on dit le règne animal, mais enfin le règne végétal, c'est énorme et c'est vivant, c'est absolument vivant.
Ah oui, c'est énorme. Et puis nous dépendons tous du monde végétal pour notre survie. Tout ce que nous mangeons, tous ces sucres que nous avalons en mangeant notre nourriture de tous les jours, tout est à l'origine construit par les plantes vertes, par le monde végétal. Quand je dis les plantes, c'est aussi les végétaux marins, etc. Donc l'entrée du carbone, la fabrication de la matière organique dont nous nourrissons et qui construit tout le vivant de la planète, la porte d'entrée, ce sont les végétaux.
D'où l'intérêt de cette écologie du sensible que vous défendez tous les deux et qui est le titre de votre livre, Jacques Tassin, autour de la question comment nous toucher, nous retoucher sans rien toucher. Réponse en musique de Swing Gadje sur RFI, sans rien toucher mais ça swing.
Je ne suis pas prisonnier du vent qui fait danser les herbes folles. Je n'ai peur de rien. Je n'entends plus couiner les vieux chemin. On a chanté jusqu'au matin. Je ne suis plus planté, je vole et je galope au rythme du temps. On me cherchait, moi transparent. Je suis les oiseaux qui s'envolent. Avec eux, sans peur du destin, j'échappe aux forces du malin. Je sens en moi son corps vibrer. Il me libère de tout péché.
Sans rien toucher, ça swing gadgé sur RFI. Autour de la question de notre commune sensibilité partagée par tous les vivants sur Terre, par les arbres et par les plantes, comme nous le découvrons avec nos invités, la biologiste végétale Catherine Laine et l'écologue Jacques Tassin, auteur chez Odile Jacob de Pour une écologie du sensible. Alors justement, à propos du sensible, à propos des arbres que vous étudiez, Catherine Laine, à quoi sont-ils le plus sensibles? Au vent, au soleil? Qu'est-ce qui les fait pousser droit et pousser alors, comme il faut? Oui.
Donc moi, je peux vous parler de ce qui est dans mon domaine, c'est-à-dire ce qu'on étudie au laboratoire, au PIAF, hein, qui est le laboratoire dans lequel je travaille à l'université Clermont-Auvergne.
À Montpellier. Alors, à Clermont-Ferrand, excusez-moi, bien sûr.
Voilà. Donc nous étudions le sens du toucher chez les arbres. Alors, ça paraît un peu extraordinaire de se dire que les arbres ont le sens du toucher. Donc, laissez-moi juste vous rappeler historiquement comment on a découvert ça. Mm-hmm. Vous connaissez sûrement, et sûrement que nos auditeurs connaissent, des plantes comme la sensitive ou comme la dionée. Mm-hmm. Alors, la sensitive, c'est une petite plante qu'on trouve dans les jardineries, hein, chez nous en France. Lorsqu'on caresse la feuille composée de ces sensitives, cette feuille se replie instantanément sous la caresse. Ça veut dire qu'elle perçoit qu'on l'a touchée. La dionée, c'est une plante carnivore qui a des feuilles transformées en pièges à loups, hein, comme des pièges à loups. Mmh. Et lorsqu'un insecte se pose sur cette feuille, il y a quelques poils sensibles au milieu de la feuille qui font que la feuille se replie instantanément et piège la mouche. Donc, pourquoi j'évoque ces deux types de plantes? Parce que très très tôt, depuis il y a déjà plusieurs siècles, on connaissait ces plantes et on était... fascinée de voir que les plantes avaient le sens du toucher, c'est-à-dire qu'elles ressentaient visiblement quand on les touchait, elles répondaient rapidement. Et à l'époque, on en restait là. Et depuis, les recherches, depuis Darwin à peu près, hein, les recherches ont montré que toutes les plantes sont, elles, toutes sensibles au toucher dès qu'on les touche, dès qu'on les frotte, dès qu'on les pique, dès qu'on les plie. Elles ressentent immédiatement ce toucher et elles répondent. Alors elles répondent de manière moins spectaculaire que la sensitive ou la dionée, mais elles répondent par des réponses de croissance modifiées.
Et en fonction du toucher, pardon, c'est ça, en fonction de...
du toucher direct. Et aussi, si vous voulez, on a élargi ce sens du toucher. Il y a le toucher direct, hein, le doigt qu'on pose sur la tige d'une plante. Et puis, il y a le vent qui va fléchir les tiges et qui va déclencher des réponses tout à fait similaires. Et pourquoi? Parce qu'en fait, dans tous ces cas, le toucher direct ou le toucher indirect par la flexion due au vent, c'est que la plante perçoit la déformation de ses cellules. Exactement comme nous d'ailleurs, hein, nous, notre sens du toucher, lorsque...
Sur notre peau?
Sur notre peau, voilà, lorsqu'un doigt s'enfonce sur une main, eh bien, il induit la déformation de cellules, là, juste sous le doigt, et c'est la déformation de capteurs au niveau de la peau. Donc il se passe un petit peu la même chose, en tout cas des choses analogues dans la plante et en particulier dans les arbres. Donc pour répondre à votre question, qu'est-ce que les arbres perçoivent le plus? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils perçoivent les déformations de leurs branches liés au vent. Donc ils perçoivent le vent et ils répondent à ce vent en adaptant leur croissance. Un arbre qui est soumis à un régime de vent permanent aura une croissance en hauteur moins importante qu'un arbre qui sera plus protégé. Mais cet arbre qui est exposé au vent, il aura à l'inverse une croissance en épaisseur, un tronc, si vous voulez, plus large, plus épais que son cousin qui vivra dans un endroit plus abrité.
Ah, comme quoi, ils sont vraiment sensibles au vent, au toucher. Est-ce qu'ils sont sensibles aux caresses? Ça, on n'en sait rien. En tout cas, je propose tout de suite un nouvel éclairage justement à propos de cette sensibilité et du sens des arbres et des plantes en général, soulevé par un éco-acousticien, Jérôme Sueur, du Muséum National d'Histoire Naturelle, qui était récemment notre invité.
Il y a quelques personnes qui réfléchissent aujourd'hui au fait de savoir si les plantes pourraient percevoir le son ou les ondes ou les ondes sismiques. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe dans ce champ de recherche? Et finalement, est-ce que ce ne serait pas une autre manière pour les plantes d'être en contact les unes les autres?
Qu'en pensez-vous? Qui veut répondre à cette question?
Bon, je veux bien commencer par donner quelques éléments. Alors, est-ce que c'est une voie de communication entre les plantes? Là, c'est peut-être, c'est certainement aller loin. Mm-hmm. En tout cas, ce que l'on sait, dans le prolongement de ce qu'a dit Catherine Laine, c'est que les plantes réagissent aux différentes formes de toucher et, à la limite, entre guillemets, elles reconnaissent de quelle forme il s'agit. Mm. Qu'il s'agisse du vent ou qu'il s'agisse d'un insecte qui se pose sur une feuille, qui va constituer un danger d'ailleurs. Donc ne caressons pas les plantes, parce que les plantes peuvent interpréter cela comme le danger d'autant d'insectes qui se poseraient sur ces feuilles,
bon,
qui les amènent à réagir, à produire des substances chimiques désagréables pour ces insectes, etc. Et j'ai perdu le fil de mon propos.
Mais ce que vous disiez, c'est que finalement, le toucher, ils sont capables, les plantes sont capables de faire la différence entre différents touchés.
Pour y répondre de la manière qui convient, et jusqu'à des cascades de mécanismes. Alors, j'ai envie de mettre des guillemets également, parce que considérer que la plante est une machine, ce serait faire fausse route. Mm-hmm. Mais en tout cas, ces formes de réponse l'amènent parfois vers des directions complètement inespérées, inattendues en tout cas, puisque une de ces formes de réaction, c'est en ayant détecté l'insecte par... par exemple, une chenille qui commence à grignoter une feuille, qui va mêler sa salive aux cellules de la feuille, la plante est capable, pour certaines plantes, on le sait en tout cas, d'émettre des substances volatiles qui vont alerter un prédateur de cette chenille. Vous voyez que ça
va très loin. Donc il y a bien de la communication, c'est ça, d'une plante qui va émettre quelque chose pour appeler à l'aide.
Alors pas vers une autre plante, mais vers un autre organisme vivant, et ça fait partie des mutualismes. Alors parler de communication, on bute toujours sur les mots, parce que le terme est à nouveau très polysémique. Est-ce qu'il faut parler de communication active, parce qu'il n'y a pas une intentionnalité malgré tout, on peut en tout cas le pressentir de la part de la plante, d'appeler au secours et d'aller chercher une rescousse. Mais en tout cas, au moins sous une forme passive, cette réaction existe. Et on peut la mettre sur le compte de l'évolution.
Bien sûr, il n'y a pas une décision derrière, oui.
Voilà, c'est ce qui est un peu compliqué, parce qu'on fait parfois confusion. Bon, alors, par exemple, on peut penser au très beau livre de Maeterlinck dans les années 20 qui avait pour titre « L'intelligence des fleurs ». Mais là, il faisait exclusivement référence aux produits de l'évolution. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas référence à une quelconque prise de décision des plantes. Voilà, donc c'est ce qui rend cette question aussi compliquée.
Oui, c'est ça, il y a une communication, il n'y a pas une décision de communiquer, mais il y a une succession de perceptions qui font que les plantes réagissent, communiquent, donc communiquent de manière chimique. Catherine Laine, est-ce qu'elle communiquerait aussi de manière... elles n'ont pas d'oreilles, les plantes et les arbres n'ont pas d'oreilles, mais donc est-ce qu'il y aurait d'autres sens possibles?
Alors, en fait, quand vous dites que les plantes n'ont pas d'oreilles, oui, effectivement, il n'y a pas d'organes où seraient concentrées des cellules sensibles au son. Mais finalement, quand on réfléchit à ce qu'est le son, c'est une vibration de l'air qui fait vibrer tympan et qui, et derrière, c'est transmis à travers un liquide et qui vient, les vibrations sont transmises jusqu'à des cellules ciliées à l'intérieur de notre oreille. Mais finalement, la plante, elle perçoit les déformations au niveau cellulaire, elle perçoit les déformations de ses cellules. Elle perçoit des déformations mécaniques. Donc, moi, ça ne me choque pas de penser qu'une plante peut être sensible au son, parce que le son est une vibration de l'air, une déformation de l'air, donc qui viendrait déformer ses cellules. Donc, pourquoi pas ?
Pourquoi pas jouer de la musique à nos plantes ? Mais ça, c'est peut-être un peu aller loin.
C'est là où j'allais moduler un petit peu. Oui. C'est-à-dire que maintenant, il faut effectivement des études bien carrées, bien contrôlées, avec beaucoup de répétitions, pour montrer qu'il y a un effet du son sur les plantes. Certains charlatans, pour moi en tout cas, à mes yeux, vendent et donc font du profit auprès d'agriculteurs ou de gens qui les croient, et vendent des mélodies, de la musique diffusée dans les vignes ou dans les vergers pour soigner ces arbres, pour augmenter leur défense immunitaire. Donc, moi, tant qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui le prouvent et que ces études sont reprises par différentes équipes, sont multipliées, je suis comme saint Thomas, si j'ose dire. C'est-à-dire que j'ai du mal à y croire. Il me faut, derrière, des études bien contrôlées, publiées, approuvées par la communauté scientifique, pour avancer et pour dire que effectivement les plantes entendent les sons.
En tout cas, les plantes sont sensibles au vent, hein, ça on l'a compris, aux vibrations, aux ondes produites par le vent. Alors, est-ce que les plantes seront sensibles aux morceaux que je vais vous passer entre les deux oreilles ? Je n'en sais rien. Il est signé des Daft Punk sur RFI et il s'appelle tout simplement Touch.
Touch. I remember touch. Pictures came with touch. A painter in my mind. Tell me what you see. A tourist in a dream. A visitor, it seems. A half-forgotten song. Where do I belong? Tell me what you see. I need something more. Kiss, suddenly alive. Happiness arrive. Hunger like a storm. How do I begin? A room within a room. A door behind a door. Touch, where do you lead? I need something more. Tell me what you see. I need something more.
Les Daft Punk sur RFI avec Paul Williams. Autour de la question, pourquoi et comment nous retoucher à l'heure du Covid-19 avec ceux qui nous touchent, hein, puisque nous le découvrons avec nos invités Catherine Laine et Jacques Tassin. Tous les vivants sur Terre sont sensibles à une forme ou à une autre de toucher. Autant de questions qui inspirent évidemment l'anthropologue et sociologue sénégalais Lamine Sall, qui était récemment notre invité par téléphone depuis Yola au Nigeria où il est confiné. Je propose d'écouter son éclairage sur le toucher.
C'est vrai que toucher, c'est exister, c'est sentir l'existence de l'autre. C'est presque être en communion, mais en même temps, toucher quelqu'un, ce n'est pas l'autre. C'est pas soi. Le toucher, c'est ça montre, en tout cas, c'est signifier son existence. C'est venu signifier son existence. Et c'est vrai que s'il n'y a plus cette possibilité, avec cette pandémie, on ne peut plus se toucher. C'est comme si on ne reconnaissait pas l'existence de l'autre. C'est comme si l'autre n'existait plus. Et je pense que cette pandémie, c'est ça que ça nous enseigne aussi. C'est-à-dire que pourquoi il est vraiment important de trouver des solutions médicales, parce qu'on ne peut pas vivre sans l'autre. Et pour vivre avec l'autre, c'est aussi pour avoir de son point de vue et de votre point de vue sur l'existence de l'autre.
Magnifique éclairage de l'anthropologue et sociologue sénégalais dont j'ai écorché le nom, je m'en excuse, Lamine Sagna, Mohamed Lamine Sagna, sur justement le toucher qui nous relie et qui nous distancie aussi de l'autre. Vous voulez réagir? J'imagine que ça vous inspire aussi, Catherine Laine ou Jacques Tassin.
Alors, moi, en écoutant le témoignage de ce monsieur, j'ai trouvé ça très joli, sa phrase, le toucher, c'est signifier son existence. Mmh. Et je me disais, en l'écoutant, peut-être que je ramène tout à ce que je connais, mais en biologie, finalement aussi, un tissu se constitue, un organe se constitue parce que les cellules se touchent entre elles. Ils se reconnaissent. Et il y a, encore une fois, même quand on descend à l'échelle de l'infiniment petit, à l'échelle cellulaire, il y a aussi nécessité de se toucher pour se reconnaître et pour vivre ensemble, en fait. Les cellules qui vivent ensemble, ça fait un arbre. Donc, j'ai trouvé que c'est...
Ah oui, magnifique. C'est du tissage, en fait. C'est du tissage de cellules. Oui. Magnifique. Voilà. Quand on remonte même à l'origine de la vie, finalement, Jacques Tassin.
Ah, complètement, ça, c'est une forme indissociable de tout être vivant que de toucher et de se sentir touché. Parce qu'il y a une réciprocité dans le toucher qu'il n'y a pas dans d'autres formes. Ce n'est pas parce qu'on sent quelque chose qu'on est senti, évidemment. Ce n'est pas parce qu'on parle qu'on est écouté. Enfin, de préférence, oui, mais...
pas toujours.
Mais pas toujours. Et il doit y avoir, et dans le toucher, il y a aussi un mouvement. Dans le sensible, il y a toujours un mouvement. Parce que s'il n'y a pas ce mouvement, le sensible disparaît. Si vous touchez, je ne sais pas, vous prenez la main de votre conjoint ou conjointe, pendant quelques instants, bon, au bout d'une minute, vous ne sentez plus la main de l'autre. Et l'autre personne ne vous sent plus. Donc il doit y avoir, c'est la même chose pour le goût aussi. Hein, quelque chose qu'on maintient dans la bouche pendant une minute, deux minutes, on finit par ne plus le sentir. Et donc c'est dans ce sens-là aussi où le mouvement étant constitutif de la vie, le sensible lui aussi constitutif de la vie dans la mesure où il est indissociable du mouvement.
C'est ça, voilà. Et c'est ce que je voulais vous dire aussi par rapport à cette question de sensibilité, hein, ce terme de sensible. Finalement, aujourd'hui, on cherche beaucoup de définitions du vivant, mais le vivant, par définition, c'est pas obligatoirement sensible. C'est peut-être ça qui définirait finalement le vivant.
Moi, j'en suis un peu convaincu. Disons que c'était le fil directeur de mon livre pour une écologie du sensible.
Absolument.
Il n'y a pas de vie sans sensibilité, mais dans un sens peut-être autre que celui... Moi, je ne parle pas, évidemment, je ne parle pas d'émotion, je ne parle pas de sensiblerie, vous l'avez dit au début de l'émission. Je parle vraiment des dispositions vivantes qui font que nous ne pouvons être, comme ce monsieur l'a dit tout à l'heure, qu'en contact avec ce qui n'est pas nous-mêmes, en contact avec ce qui nous... Non pas ce qui nous extrait de nous-mêmes, mais ce qui est dans notre continuité, dans notre appartenance au monde. Puisqu'en réalité... notre milieu et nous-mêmes sommes indissociables. Se penser soi-même uniquement isolé du monde, comme le faisait un peu Descartes d'ailleurs, pas comme le faisait totalement Descartes, c'est réaliser une abstraction, c'est une virtualité. Nous ne pouvons pas nous isoler du monde. Et c'est pour cette raison que nous avons tant besoin de toucher le monde, de toucher l'autre. Et c'est vrai que ce confinement nous révèle très cruellement ce besoin essentiel. Au moins, c'est une expérience qui aura été utile pour cela.
Oui, c'est ça. On a l'impression que ça met le doigt, sans jeu de mots, justement sur ce qui est important, sur le lien à l'autre, à tous les autres. C'est aussi votre travail à vous, mais c'est vrai qu'on se dit peut-être que c'est l'occasion aujourd'hui de se rendre compte à quel point on est interdépendant, à quel point on a besoin de se toucher, à quel point on est tous sensibles et à quel point, comme vous le dites, on n'est pas séparés, mais on a besoin de toutes les autres sensibilités, Catherine Laine.
Oui, absolument. Moi, je suis complètement d'accord avec les propos de Jacques Tassin également. C'est-à-dire que n'importe quel être vivant ne vit jamais seul. Jamais seul, c'est le titre d'un livre d'un collègue aussi que je vous recommande, Marc-André Tellot.
Absolument magnifique, oui.
Voilà, superbe. Et donc, on ne peut pas vivre seul. On ne vit pas seul. Quand vous regardez un arbre dans une forêt, un arbre, un chêne par exemple, vous avez l'impression de voir un arbre. Mais en fait, cet arbre, on a pu comptabiliser jusqu'à 300 espèces différentes, 300 espèces vivantes qui vivent sur cet arbre ou en contact avec cet arbre.
Alors, animaux, par les racines.
Animaux, voilà, animaux, champignons, autres espèces végétales, algues, etc. Donc, 300 espèces différentes, et encore peut-être qu'on en a oublié pas mal, ça veut dire que quand on observe un arbre, c'est à lui seul aussi un écosystème. Donc, bien sûr, on n'est jamais seul, et pour vivre entouré et pouvoir profiter de ces interactions, eh bien, la sensibilité, c'est le sens même de la vie, hein, c'est la base même du vivant.
Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Magnifique conclusion. Enfin, il y en a une très jolie aussi dans votre ouvrage, hein, Jacques Tassin, pour une écologie du sensible. Je cite, je crois que ce sont les dernières phrases. Sortir de notre raison pour s'incorporer dans la multiplicité des mondes. Oui, c'est la conclusion de votre ouvrage pour une écologie du sensible. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Vous avez un mot à ajouter peut-être, Jacques Tassin ?
Non, vous me prenez de court. Non, je restais à ma conclusion que vous venez de lire, donc je ne sais pas quoi ajouter à ce livre.
Ben en tout cas, on a envie, nous, d'être pour une écologie du sensible et de s'ouvrir justement à la multiplicité des mondes sensibles, qui sont tous sensibles. Ça, c'est une vraie découverte. Merci infiniment à tous les deux d'avoir partagé avec nous par téléphone pour cet éloge, finalement, de la sensibilité, de toutes les sensibilités et de tout le vivant. Donc, je rappelle le titre de vos ouvrages respectifs, pour une écologie du sensible, donc aux éditions Odile Jacob, Jacques Tassin, et Dans la peau d'une plante, qui est paru aux éditions Belin, Catherine Laine. Merci d'avoir partagé cette heure en direct avec nous par téléphone.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, chers amis auditeurs et auditrices, avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique. Autour de la question, comment la science infuse au temps du Covid-19, nous reviendrons sur les capacités limitées de notre cerveau à faire face à l'incertitude. Nous ferons aussi appel à vos talents d'astronome amateur pour observer les phases de la Lune et découvrirons comment revisiter de très anciens fossiles de dinosaures grâce à l'ADN datant de centaines de milliers d'années à décrypter et à potentiel. Podcasté bien sûr demain avec Hugo Violas à la réalisation, ici à RFI, Caroline Fillette en coulisses depuis chez elle et Caroline Lachowski au micro ici à RFI pour vous servir. Merci pour votre écoute et votre curiosité sans cesse renouvelée. Haut les cœurs, restons sensibles et gardons l'esprit libre et ouvert à tous les possibles et à tous les sensibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du journal.
$7 milliards.